chantonne.
Et hop.
10 secondes. Une personne a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est resté un an et demi dans ce hangar sans manger. Il en est ressorti intact. Tournez à droite. Là, des vieux entrepôts qui servaient des abris. Des éléphants, des tigres.
Mon Dieu, je me sens bien ici. C'est paisible et je peux dormir à n'importe quel moment que je veux. Il chantonne. Et hop, et encore un saut. La joie est contagieuse, merveilleuse. Elle brille comme le soleil et fait vibrer le cœur.
Charmé par le chant envoûtant qui berçait cette nuit fraîche et enneigée, dans sa tête et son corps, tout s'embrouille et se bascule.
C'est-à-dire de parler des espaces, de parler des choses, de parler comme ça, de parler...
Alors c'est vrai que les croyances, on en parle
la
assez
direction,
peu.
La direction.
On en parle assez peu en psychiatrie, on en parle assez peu en sciences cognitives, on en parle assez peu en neurosciences. Et pourtant, elles sont au cœur de notre vie. C'est même un des fondements probables du fonctionnement de notre cerveau.
Entrer en collision avec tous les passants qui marchent devant vous.
Et ça, c'est un truc qui est assez récent hein, au niveau des recherches actuelles et des conceptions théoriques. C'est se dire que les croyances, c'est un peu le centre de notre cognition. D'ailleurs, le terme cognition est intéressant hein, parce qu'on parle de cognition, à la fois pour parler des sciences cognitives, de la cognition en général, c'est-à-dire des grandes fonctions de l'intelligence, de la perception, de l'émotion. Mais le mot cognition, ça veut aussi dire, en psychologie, ces espèces de pensées qui sont en fait des croyances, qui sont en fait des espèces d'estimations de probabilité sur ce qui pourrait se passer.
Mais je vois bien que les gens soient conscients.
Et on s'attarde assez peu finalement sur les croyances des gens pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent.
Donc, je crois que ça donne grande liberté aux spectateurs aux menteurs, pas, je m'en vais.
Si vous y réfléchissez, très souvent, les idées que vous avez, c'est typiquement des estimations de probabilités de choses qui pourraient se passer ou qui se sont passées dans votre environnement. Typiquement, si vous croyez qu'en ce moment vous êtes en train d'écouter la radio, c'est une croyance, c'est une idée, mais c'est aussi une croyance qui est que vous, physiquement, vous êtes en train probablement d'écouter un son qui vient probablement d'une radio, qui a probablement été enregistrée dans un studio, etc., etc.
Alors spéculatif, on verra, mais en tout cas qualitatif, on verra, voilà, c'est sûr, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas...
Donc en fait, à chaque fois, c'est quand même une estimation de probabilité sur quelque chose qui pourrait exister dans le monde ou qui existe réellement.
Voilà, on est en relation, et c'est effectivement, il y a une nouveauté.
Alors une idée, c'est beaucoup trop vague. C'est vrai, quand on parle d'idées, c'est pas un terme d'ailleurs qui fait partie de la psychologie, les idées, mais c'est beaucoup trop vague. Alors quand vous parlez de croyance, une des caractéristiques de la croyance, c'est qu'il doit y avoir une intentionnalité et une attribution finalement de confidence, de confiance par rapport à cet événement ou à cette chose qui est représentée par la croyance. Quand je crois quelque chose, c'est que vers ce vers quoi mon idée est dirigée, et bien finalement j'ai une confiance dans cette chose-là, ou j'ai finalement un sentiment de confidence, en anglais on dit confidence, vis-à-vis de cette chose.
Non, je ne veux pas. Ça va faire trop mal. Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivaient un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille, « J'aimerais bien manger une galette. » Tes émotions sont sans dessus-dessous.
Donc typiquement, si jamais je crois quelque chose, et bien c'est qu'en fait, à la fois, mon esprit est dirigé vers un objet du monde, un objet qui peut être un objet totalement imaginaire, hein, du monde imaginaire. Alors, je peux croire que les sorcières ont des balais. Les sorcières et les balais n'existent pas, jusqu'à preuve du contraire. Mais pourtant, mon idée est dirigée vers un objet du monde, et j'ai une croyance qui est reliée à cet objet du monde. Ça, c'est typique de l'intentionnalité. C'est pour ça que toutes les croyances, on dit que c'est des états intentionnels, en philosophie de l'esprit notamment. C'est-à-dire que c'est des états qui ont un contenu qui leur est propre, et vers lequel la pensée est dirigée.
Mais c'est vrai, ça c'est la vérité.
Il y a d'autres états intentionnels. Les émotions, majoritairement, sont intentionnelles. Si j'ai peur de quelque chose. Si je suis joyeux d'un événement, je suis joyeux à propos de quelque chose. Et puis, par exemple, aussi, en général, la perception, on dit que c'est intentionnel. Je vois quelque chose, il y a une intentionnalité. Ma perception est dirigée vers un objet du monde qui, pour le coup, est du monde réel en général.
Mais il y avait quelque chose. Les traits sont... C'est couvert. Il y avait un rideau.
Alors c'est vrai que le cerveau bayésien, c'est un mot qui maintenant est rentré dans la culture populaire et dans la culture scientifique populaire. C'est un mot en fait qui est assez ancien, le système bayésien. C'est quelque chose qui a révolutionné la compréhension des probabilités. On a les probabilités bayésiennes qui sont arrivées. Alors c'est le révérend Bayes, hein, Thomas Bay, qui a un peu été fondateur, un peu à son insu, parce que finalement c'est un de ses amis hein, qui a redécouvert ses écrits et qui a popularisé après son célèbre théorème, le théorème de Bayes. Et puis après, c'est rentrer un peu en philosophie aussi pour essayer de comprendre la façon dont on peut traiter l'information en situation d'incertitude.
Les d'un nombre donné. Ils peuvent être nombreux. Justement, je vais vous donner un moyen de les former sans en oublier aucun.
Et en fait, le théorème d'Obeys, c'est un théorème qui montre une façon optimale de traiter de l'information en situation d'incertitude à partir de choses qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, j'utilise des connaissances déjà antérieures pour traiter de l'information nouvelle qui est un peu incertaine. Et à partir de cette grande idée, qui a majoritairement fondé un peu tout un champ des philosophies des mathématiques, notamment des philosophies des probabilités, eh bien, finalement, on a fait une jonction vers les sciences cognitives parce qu'on s'est rendu compte que probablement, une des façons dont les neurones, au sens très très minimaliste, traitaient l'information électrique, eh bien, ça pouvait ressembler parfois à des computations magnétiques.
Il y a bien des gens qui n'ont rien à voir avec le fait de marcher, le fait de parler, tu vois. Mais
c'est-à-dire, comme c'est un fonctionnement optimal pour traiter de l'information en situation d'incertitude, probablement que les neurones, leur façon de traiter l'information, qui est très incertaine, d'une chaîne de neurones à une autre, utilisent aussi des computations bayésiennes. Donc finalement, c'est une sorte de translation des mathématiques vers la philosophie jusqu'aux sciences cognitives.
Parler vite et marcher lentement, et oh, marcher vite et parler lentement, et je te jure que c'est où et quoi, où, comment, et quand, pourquoi, comment, où et quand, pourquoi, comment, où et quand, pourquoi, comment, où et quand, pourquoi, comment, comment, pourquoi, où, pourquoi.
Au moment où les probabilités bayésiennes sont rentrées un petit peu en philosophie des mathématiques, c'est l'idée de se dire finalement les probabilités, il y a des probabilités qui existent uniquement dans la tête. Et ça, ça a été un peu aussi une modification de la conception de ce qu'étaient des croyances. Pendant très longtemps, on a parlé de croyances catégoriques, c'est-à-dire c'était « je crois » ou « je ne crois pas quelque chose ». Ça a été un des fondements de la logique, un des premiers systèmes de logique qui après ont mené à l'intelligence artificielle, c'était vraiment des systèmes très binaires, catégoriques. Soit je crois, soit j'ai une attribution de croyance, soit je ne crois pas. Les croyances probabilistes, la théorie des probabilités, a ramené un peu de quelque chose un peu plus mystérieux. C'est l'idée de se dire qu'on peut avoir des états de croyance qui sont des états doxastiques, qui sont des états probabilistes, où finalement on a une attribution de probabilité à certains types d'événements, à certains types de choses, et qu'on peut avoir une attribution d'autres probabilités contraires, par exemple, à d'autres types d'événements. Donc on peut avoir deux événements, par exemple, qui ont des attributions de probabilités qui sont un peu antagonistes et qui peuvent coexister au sein du même esprit. C'est quelque chose qui est intéressant pour la psychiatrie, parce qu'en psychiatrie, très souvent, on a des patients, on a des gens, mais ça peut même nous arriver dans notre vie à nous, qui ont des croyances qui sont totalement contradictoires avec d'autres types de croyances. Comme s'il y avait un antagonisme intérieur entre ce qu'ils pouvaient croire et d'autres choses. Je vous donne un exemple très concret, des patients qui ont, par exemple, un syndrome de Cotard, des patients qui ont la croyance délirante qu'ils sont déjà morts, ou que leur intestin ne fonctionne plus, ou que l'intérieur de leur corps ne fonctionne plus, ou même qu'ils ont perdu une partie de leur corps, par exemple qu'ils ont perdu une partie de leur intestin. Et bien ces patients, malgré cette croyance-là, ils peuvent avoir d'autres croyances, comme le fait qu'il faut quand même qu'ils mangent pour survivre, qu'il faut quand même qu'ils prennent de l'eau pour pouvoir s'hydrater, etc. Donc finalement, ils ont la croyance qu'ils sont morts, et en même temps, ils ont la croyance totalement contradictoire, antagoniste, qu'ils sont obligés de se nourrir.
Oh, croyez bien que je suis absolument désolé. Je pensais que vous vouliez juste me sauver la vie. Papillon et chélaon. Un papillon est plus petit qu'un coléoptère. Un coléoptère est plus petit qu'une alouette. Une alouette est plus petite qu'un perroquet. Un perroquet est plus petit qu'un hibou.
C'est finalement, on avait toujours pensé que les croyances, il y a une sorte de cohérence intrinsèque qui est la base de la rationalité. On parlait de rationalité avec ces idées qu'au sein d'un système de croyances, il faut qu'il n'y ait pas de conflit finalement entre ces différentes croyances. Et une nouvelle forme de rationalité, qui est la rationalité bayésienne notamment, admet qu'on puisse, au sein des hiérarchies de croyances dans notre cerveau, avoir des croyances qui sont totalement incohérentes, qui peuvent être même en situation d'incohérence logique au sens de la logique propositionnelle.
Par exemple, elle le jouerait et un jour, sa maman, elle va mourir. Mais aussi, ce qui stresse avec Samia, c'est que, ok, d'accord, elle raconte sa vie parce qu'elle en a besoin, mais qu'aussi... Mais on s'en fout de sa life.
L'idée de la psychiatrie computationnelle, c'est l'idée qu'on peut modéliser l'ensemble des choses qu'on peut voir avec nos yeux, les comportements, les troubles qu'on peut observer chez les patients, et qu'on peut les modéliser en termes mathématiques en proposant des équations, qui est un niveau algorithmique, et qui permet après d'étudier et de comprendre les mécanismes sous-jacents qui ont fait émerger en fait ce qu'on observe. Donc c'est en fait passer de l'observation clinique à quelque chose de beaucoup plus mécanistique. Et pour faire ce chemin vers le côté mécanistique, on met des mathématiques dessus qui permettent un peu de codifier ces choses-là. C'est assez fascinant parce qu'en fait, ça a permis de ramener un peu plus de mécanistique dans la compréhension des troubles qu'on peut observer. Et dans cette mécanistique, en fait, ce qu'on peut modéliser, et on peut modéliser des ensembles de réseaux de croyances, finalement des hiérarchies de croyances qui expliquent un peu les symptômes.
Et quand tu marches, il faut penser, mais la pensée elle est différente. Et quand tu marches lentement et tu penses vite, c'est pas la même chose.
Alors, vous mangez le petit
lapin. Vite et que tu marches lentement. Mais oui.
C'est là où c'est beaucoup plus complexe, c'est qu'en fait, les croyances dont on parle, elles ne sont pas forcément conscientes. Ce n'est pas forcément des choses qu'on peut manipuler, qu'on peut comprendre, qu'on peut observer. Typiquement, si j'ai la croyance que fumer, c'est mauvais pour moi, on sait très bien que ce n'est pas suffisant pour arrêter de fumer. Tous les fumeurs le savent. Ils peuvent avoir cette croyance-là, oh là là, mais je sais très bien que j'ai plus de risques d'avoir telle maladie, telle chose. Et pourtant, malgré cette croyance-là, on ne s'arrête pas de fumer.
J'ai pas compris ce que vous dites. Vous dites quoi? Je comprends pas. Comment ça, quand on marche, on parle pas? J'ai pas compris ce que t'as dit.
Parce qu'en fait, il y a plein de croyances qui sont totalement inconscientes et qui sont basées beaucoup sur l'interoception aussi. C'est-à-dire la façon dont notre cerveau code l'intérieur de notre corps. Quand j'ai envie de fumer, quand j'ai une addiction par exemple à la nicotine, bah, finalement, il y a mon corps qui aussi exprime plein de choses. Il y a typiquement mes muscles, typiquement mon système de la récompense, typiquement mes intestins qui ont exprimé des choses liées au manque de nicotine, liées au fait que la nicotine, ça lui fait du bien aussi pour certaines fonctions motrices par exemple, etc. Dans une addiction, il y a énormément de choses qui sont intriquées, pas juste de la psychologie, il y a énormément de choses qui sont aussi liées au somatique. Et typiquement, les addictions, on sait bien que c'est avant tout le corps qui les exprime et qui génère parfois, le corps permet de générer des pensées qui vont favoriser l'addiction. Typiquement, c'est pas si grave si j'en prends une petite, c'est pas si grave si je fume juste en soirée, c'est pas si grave si je peux reprendre un petit verre alors que j'ai une addiction à l'alcool qui est traitée.
Les goûts sont radicalement différents des nôtres, ce que vous sentez, ce que vous voyez, n'a plus aucun rapport avec ce que vous voyez dans la vie.
Un des tests qu'on peut faire, c'est la façon dont on met à jour nos croyances sur l'avenir, sur notre futur, sur ce qui va se passer pour nous, en fonction des informations qui nous viennent. Ce qu'on sait, c'est que les antidépresseurs sérotoninergiques, typiquement les antidépresseurs classiques qu'on utilise, le Prozac, la Valafaxine, etc., c'est plutôt des antidépresseurs qui vont modifier un peu la perception qu'on a des récompenses et des coûts dans le monde. Donc typiquement, on va être plus sensible aux signaux qui sont récompensants et un peu moins sensible aux signaux qui vont être aversifs, qui vont être des signaux un peu de menace. Ça, c'est les antidépresseurs classiques. La théorie, c'est que ça met un certain temps en fait pour que les croyances justement puissent se mettre à jour. Et en fait, donc progressivement, le un mois d'efficacité est dû en fait à cette mise à jour progressive des croyances. C'est quelque chose qui est un peu différent que les antidépresseurs d'action rapide, typiquement la kétamine ou la psilocybine ou la brexanolone, qui sont des traitements d'action rapide. La psilocybine, elle est très connue parce que c'est des champignons hallucinogènes qu'on prend par exemple quand on va en voyage à Amsterdam, etc. C'est des champignons qui sont des sérotoninergiques très très puissants et qui vont en fait modifier tellement le système des croyances et le système de mise à jour et de perception qu'ils ont des effets antidépresseurs très rapides. C'est-à-dire que c'est un antidépresseur en une prise, quelques heures après la prise, on a des effets cliniques qui sont déjà vus.
Sournoise, elle étouffe notre cœur comme un serpent. Elle se cache dans la nuit comme un voleur.
Alors typiquement, la kétamine est un traitement qui maintenant est validé, qui a un bon niveau scientifique de validation. Donc on l'utilise, nous, de façon très très fréquente. À la Pitié-Salpêtrière, on est un des grands centres d'utilisation de la kétamine en France. On l'utilise en ambulatoire, c'est-à-dire que les patients peuvent venir le matin, avoir leur perfusion de kétamine et sortir en fin d'après-midi ou en début d'après-midi avec cet effet antidépresseur. C'est utilisé aussi dans d'autres pays. Aux États-Unis, ils sont très en avance sur la kétamine. Par contre, la psilocybine, on ne peut pas encore l'utiliser en France, mais il y a un essai clinique qu'on va lancer, qu'on va commencer là, et on va utiliser la psilocybine à visée antidépressive aussi. Donc c'est des traitements qui vont forcément, dans les années à venir, avoir une place importante dans la pharmacopée psychiatrique.
Et moi, quand je marche dans la cour de récréation et que j'arrive pas à réfléchir et que du coup je fais que marcher, et ben, y a Samira qui vient m'embêter. Voilà. Et puis moi ça m'énerve parce qu'à chaque fois elle se croit belle et puis elle m'empêche de penser parce que du coup moi je suis tranquille, je marche tout seul. Et comme elle l'a dit avant.
Et ce qui est important, c'est de se dire que ces molécules-là, elles ne vont pas avoir un effet spécifique sur les croyances qui sont les plus douloureuses pour moi ou celles qui sont les plus impactantes pour mon trouble. Donc c'est important d'avoir toujours un thérapeute, un psychothérapeute, qui peut être le psychiatre, qui peut être un psychologue, quelqu'un qui accompagne un peu le patient, qui permette un peu justement d'amener finalement l'efficacité thérapeutique sur des points très ciblés. Ce qu'on défend beaucoup, et c'est une des choses qu'on fait à la Pitié-Salpêtrière, c'est les psychothérapies augmentées, un peu ou les psychothérapies assistées, soit par psychédélique ou par kétamine. d'amphétamine, où finalement on amène le patient à réviser un peu ses modèles du monde, à changer un peu sa perspective sur son environnement, sur son trouble, etc. Avec l'aide de ces molécules qui sont un peu qui ouvrent un peu une fenêtre de plasticité.
L'expérience,
ce qui est important, c'est de se dire que ces molécules, c'est des molécules qui sont des molécules neuroplastiques. Elles augmentent la plasticité cérébrale, tous les traitements d'antidépresseurs d'action rapide. C'est-à-dire qu'elles font en sorte que les patients ont beaucoup plus de facilité, finalement, à réviser leur modèle et leur perspective sur le monde. On sait que la kétamine, quand elle est administrée seule, sans accompagnement, c'est un effet à court terme. C'est-à-dire qu'il y a un effet, il y a une espèce de fenêtre de plasticité qui s'ouvre, et s'il ne se passe rien pendant cette fenêtre, bien finalement, il n'y a pas d'efficacité thérapeutique sur le long terme.
Un peu plus tôt, cette idée de dualité qui émerge au sein même de l'individu sur cette distinction qu'il y a entre l'action, le faire, l'être, et le paraître, et la pensée qui s'oppose et qui se distingue, mais qui vont de pair étonnamment. Donc oui, c'est un concept qui rythme notre quotidien.
Alors l'hypnothérapie, même s'il y a encore des controverses sur ça, ça peut être considéré aussi comme des fenêtres un peu de plasticité des cognitions et de plasticité des perceptions, parce que typiquement, on a des modifications proprioceptives, interoceptives et extéroceptives, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit à l'intérieur de son corps et la façon dont on perçoit la position de son corps sous hypnose. Donc typiquement, l'hypnose, elle modifie un peu la façon dont le cerveau prédit les entrées sensorielles. Donc il y a probablement des effets moléculaires et neuronaux qui sont un peu synergiques, hein, ce que ressemble avec l'effet qu'ont les psychédéliques et qu'ont la kétamine et l'hypnose. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent un peu sur ça, notamment pour faire un peu de l'hypnose assistée avec des psychédéliques ou l'hypnose assistée par kétamine. C'est un peu aussi un des axes de recherche qu'on ne fait pas nous à la Salpêtrière, mais qui est un axe de recherche possible.
Oui, depuis toujours, cette théorie, personne déjà ne le disait. Et tu vois, cette distinction en paraître et être et marcher lentement.
Il y a des molécules qui peuvent vraiment modifier les croyances, notamment, alors c'est des choses qui ont pu être essayées par notamment des essais qu'avait fait l'armée aux États-Unis avec le LSD. Il y a des molécules en fait qui vont provoquer de telles expériences perceptives, de telles expériences très fortes sur le plan émotionnel, qu'en fait, vous allez pouvoir modifier vos modèles du monde. Typiquement, il y a des gens qui ont des expériences d'antéogénèse. L'antéogénèse, c'est la genèse d'une idée religieuse, d'une idée d'un dieu, d'une idée un peu spirituelle. Et ça, c'est des choses qui sont possibles avec ces molécules parce qu'on va être soumis à des perceptions tellement différentes de ceux auxquels on a l'habitude et tellement fortes par rapport à notre spectre sensoriel habituel que finalement, on va se mettre à croire des choses qui sont en lien avec notre expérience. Et ça peut être un peu drivé aussi parce qu'on a préparé avant pour l'expérience. Typiquement, il y a un anthropologue que j'aime beaucoup, il s'appelle David Dupuis, qui a travaillé sur la façon dont les croyances culturelles pouvaient se transmettre en lien avec l'utilisation des psychédéliques, et notamment en lien avec l'ayahuasca, dans des communautés d'ayahuasca au Mexique. Et ce qu'il a montré, c'est que finalement, ce qui était dit avant l'expérience, avant la prise d'ayahuasca, était extrêmement importante pour la façon dont les images allaient modifier les croyances de ceux qui participaient à ces essais. En général, alors typiquement dans l'essai lui qu'il a fait, c'était beaucoup lié à des images, des allégories religieuses liées notamment au catholicisme d'Amérique du Sud, mais ça peut être d'autres choses. Et on peut induire énormément de choses en fait pendant cette fenêtre de plasticité et grâce à cette modification de la perception.
Mais moi je suis pas d'accord parce que je pense que c'est très simple au contraire. Parce que comme ma maman elle a dit, il y a des gens ils sont bons, il y a des gens ils sont pas bons. Et le monsieur tout à l'heure là-bas il a dit qu'il y a l'être et le paraître.
Il y a des théories anthropologiques qui quand même ont essayé de montrer qu'il y avait un lien très fort entre l'utilisation d'hallucinogènes, de psychédéliques et la génération des croyances religieuses et de certains types de formes de chamanisme notamment à travers le monde. Mais alors c'est plus compliqué en thérapeutique nous de le faire, c'est quelque chose qui n'est pas possible, et plus sur le plan éthique, ce serait vraiment très complexe. Il faut faire très attention à ne pas induire trop de choses chez les patients quand on utilise ces molécules-là, parce qu'on est en capacité vraiment d'induire des schémas, d'induire des grands modèles du monde qui sont un peu différents de ce que le patient peut avoir avant.
La totalité de ce qui existe. Est-ce que c'est pas un truc un peu comme ça qui se passe dans le modèle de l'université?
Alors, à l'échelle d'une pathologie, c'est ce qu'on peut essayer de faire, notamment quand il y a certains types de symptômes qui sont liés à ces croyances qui peuvent être dysfonctionnelles. Alors, typiquement, un patient qui a des croyances dépressives sur lui-même, avec la perception qu'il ne vaut rien, que tout ce qu'il a fait dans le passé n'avait aucun sens, que sa famille le rejette, ou qu'il est beaucoup mieux pour lui de mourir maintenant parce que la vie n'a plus aucun sens. c'est un intérêt quand même de pouvoir modifier un peu ses perspectives sur l'ensemble de ces éléments. Et cette modification des perspectives, c'est une des choses fondamentales en fait dans le traitement de la dépression. Si on y réfléchit, le traitement de la dépression, ça passe aussi majoritairement, et ça c'est quelque chose que la théorie cognitive de la dépression a beaucoup montré au cours des 30 dernières années, ça passe majoritairement aussi par une révision de ces modèles.
Même si je n'aime pas,
Le rythme cardiaque est monté, par les sanglots et les larmes. Et là, le cas intéressant, c'est que marcher lentement avec rythme cardiaque ouvert, rapide. Et là, qui est intéressant pour...
C'est l'idée de se dire qu'à tout moment, en fait, le spectre perceptuel que vous avez, qui est votre phénoménologie de vie, finalement, ce qui vous permet de vous dire que vous êtes là en ce moment, dans cette pièce, en train de penser ceci, en train de voir cela, en train de sentir cela. Mais en fait, tout ça, c'est majoritairement généré par votre cerveau. C'est une forme finalement d'hallucination constante du monde. Renaud Jardé, qui est un des grands psychiatres lillois, spécialiste de l'hallucination, parle d'hallucination contrôlée. Il dit qu'on est dans une hallucination contrôlée. L'idée que notre cerveau, à tout moment, génère des prédictions sur le monde qui sont comparées aux entrées sensorielles réelles et que la phénoménologie sensorielle qu'on a, à la fois auditive, mais toute la phénoménologie dans l'ensemble des spectres sensoriels, mais en fait est due à une conjonction entre ce qu'on prédit du monde et ce qu'on perçoit réellement. C'est-à-dire qu'à aucun moment on est vraiment dans la réalité de ce qui nous arrive, à tout moment on est dans une sorte de mélange, de mixage entre des choses qu'on prédit et des choses qu'on perçoit réellement. Heureusement, pour survivre, il faut que nos prédictions et que notre sensorialité elles soient très proches de la réalité, pour pouvoir s'adapter aux dangers, aux choses réelles, etc. Donc on est quand même accroché, on est ancré dans le réel. Mais cet ancrage, il est assez fluctuant, il peut varier. Il peut varier, on le voit dans les troubles psychiatriques, les hallucinations qu'ont les patients, qu'on peut avoir dans notre vie, parce qu'il y a des gens qui ont des hallucinations, qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Et puis aussi les idées délirantes, qui sont aussi des décalages finalement entre la perception et la réalité. Mais tout ça, à tout moment, il faut quand même se dire qu'on est, vraiment dans une réalité un peu différente de celle qui est celle du monde.
Et bien voilà, c'est toujours
un peu marché. Il y a beaucoup de théories. Ça veut dire justement qu'il y a d'abord, en marchant, ça suppose qu'il y a un parcours entre les théories.
Qu'est-ce qui détermine la valence? C'est-à-dire le fait que des informations qui nous viennent peuvent être positives et négatives. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la valence, elle dépend énormément des situations, des individus et aussi de la façon dont le cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une valence qui est plutôt positive pour tout le monde. Typiquement, un aliment sucré, une mangue va être plutôt codée avec une valence positive. Il y a des choses qui sont plutôt une valence négative, des choses qui sont douloureuses, typiquement une information d'un proche est en souffrance, parce que quelque chose qui va être négatif. Et ça peut être un peu différent selon les états du cerveau et selon les moments. Et typiquement, la valence, moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné aussi en psychiatrie. La valence peut changer en fonction de l'état du patient. Je vous donne un exemple très simple. Pendant la dépression, vous pouvez avoir une modification totale de la valence de l'information qui fait que certaines informations qui, pour vous, à tout moment de votre vie, auraient été très très négatives, peuvent devenir positives. Un exemple très clair, très concret que je peux vous donner, c'est un patient qui est très déprimé, qui veut se suicider et à qui on annonce qu'il va bientôt mourir d'une maladie incurable. Cette chose-là peut être codée par le cerveau avec une valence positive, avec l'activation même des systèmes de la récompense, etc. Alors qu'en fait, pour vous, ça va être la nouvelle la plus affreuse que vous n'avez jamais annoncé. Donc il y a vraiment une modification de la valence de l'information.
C'était bien agréable.
Ce qu'on sait, c'est que la valence d'une information, elle dépend beaucoup des croyances antérieures, donc les croyances du système, la hiérarchie de croyances qu'on a, et puis de trucs qui sont intrinsèques à l'information elle-même, dans le monde où elle est, dans le monde culturel où elle est, dans le monde sensoriel.
Et elle se prend pour qui, celle-là ?
Donc il y a une espèce de conjonction constante entre ce que le cerveau imagine, prédit par rapport à son système intrinsèque de croyance et la valence qui est liée aux informations du monde. Et ça, c'est une des choses qui est à la base de nos émotions. Parce que typiquement, nos émotions, elles sont positives ou négatives, elles ont une valence en fonction aussi de ces informations-là. Nos émotions, elles arrivent majoritairement en fait liées aux informations du monde. J'ai peur de quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé dans mon environnement. Je suis surpris par quelque chose aussi parce qu'il y a une transformation de ce que j'attendais de l'environnement. Nos émotions, c'est un peu une violation de nos prédictions. C'est un peu une modification de nos prédictions. Et ce qu'on imagine aujourd'hui dans les modèles computationnels de l'émotion et de la croyance, c'est que finalement la valence émotionnelle, elle est due à la façon dont justement nos croyances sur ce qui se passait autour de nous est en train de se modifier. Est-ce que c'est plutôt positif pour nous? Est-ce que c'est plutôt négatif pour nous par rapport à ce qu'on imagine du monde?
Moi, je m'intéresse à moi, ma princesse, moi, je suis son prétendant, hein. Moi, ça m'intéresse pas toutes les histoires à côté, hein.
Dans les modèles computationnels, l'émotion, c'est plus précisément une modulation de la précision sur les conséquences de mes actions. C'est-à-dire à quel point les prédictions que j'ai sur les conséquences de mes actions, elles sont précises, mon cerveau, pour les anticiper avec beaucoup de précision. Et si jamais mes conséquences, elles deviennent imprécises, c'est-à-dire si jamais mon cerveau n'est plus capable de savoir ce qui va se passer après qu'il ait fait une action, et bien ça, c'est associé plutôt aux émotions négatives. Ça, c'est un des modèles de transformation de l'émotion qui est assez important aujourd'hui en sciences cognitives et qui apporte une vision un peu différente des visions antérieures de l'émotion.
Tu es un fantôme de quoi, dit ? De quoi ?
Le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, c'est une des choses fascinantes notamment qu'on a au cours des épisodes de dissociation. La dissociation, c'est deux choses. C'est à la fois la déréalisation, c'est-à-dire la sensation que le monde autour de nous est irréel, et en même temps la dépersonnalisation, la sensation que son propre corps, que sa propre identité est un peu floutée. Et dans ce syndrome de personnalisation, on peut avoir une sensation d'Alice au Pays des Merveilles qui est en fait un syndrome où on a la sensation que nos membres s'allongent ou rétrécissent, que l'on grandit très fortement ou qu'on rétrécit, ou que les objets autour de nous grandissent ou rétrécissent. C'est un truc notamment qu'on voit beaucoup sous kétamine, hein, donc un des psychodysleptiques dont on a parlé au début, hein, qui est un traitement antidépresseur. Et en fait, c'est probablement le signe d'une modification des prédictions interoceptives, c'est-à-dire la façon dont le cerveau prédit ce qui se passe à l'intérieur du corps.
Moi, j'avais l'impression que les sons, je sais pas, j'étais déçue.
Alors les croyances, elles sont cette fonction de réduction de l'incertitude, hein, je vous en ai parlé juste avant. Comme le cerveau il déteste l'incertitude, en fait il a deux moyens pour diminuer cette incertitude. Son premier moyen, c'est d'améliorer sa perception. Et pour ça, c'est de mettre en place des mouvements, des comportements. Typiquement, si jamais je ne sais pas très bien la couleur de vos chaussettes, je peux m'approcher de vos chaussures et regarder. J'ai fait une action, j'augmente la certitude sur la couleur de vos chaussettes. Si jamais je n'ai pas cette capacité, bien, je peux juste générer une croyance. Ah bah, j'imagine que mon interlocuteur a des chaussettes rouges ou que mon interlocuteur a des chaussettes noires. J'ai généré une croyance, elle a la même fonction de réduction de l'incertitude. Le problème, c'est que dans la génération des croyances, on est quand même ancré dans un magma culturel qui fait que nos croyances, la génération, là, elles sont quand même dirigées vers des choses. Et dans les croyances religieuses, eh bien, on a quand même des grands ensembles culturels qui vont diriger un peu la façon dont nos croyances religieuses vont être générées aussi. C'est pareil pour l'antéogénèse spirituelle dont je vous ai parlé avant, sous format copé, hein, avec un traitement. Mais typiquement, quand on a une prise de psilocybine et qu'on génère des croyances religieuses, elles vont être drivées par notre magma culturel interne.
Donc le temps passe et on a toujours pas répondu à une question concrète.
Alors avant tout, ce qui marche bien en termes de traitement et en psychiatrie, c'est changer les comportements. Quand on change les comportements, quand on est capable de modifier un peu la façon dont on agit dans le monde, dont on évolue dans le monde, ben c'est le moyen le plus sûr d'ancrer après sur le long terme des choses qui vont être thérapeutiques. La base des psychothérapies, d'ailleurs, c'est majoritairement aussi sur les comportements. La dimension uniquement cognitive des psychothérapies, elle n'a aucun effet. Hein, quelle que soit la psychothérapie, même psychothérapie de troisième vague, typiquement la mindfulness, la cohérence cardiaque, c'est majoritairement aussi des changements de comportement qui sont mis en lieu. Alors, il faut quand même se dire que les changements de comportement, ils ne sont pas si faciles à mettre en place. Et c'est pour ça que c'est assez facile au début de pouvoir aussi modifier les perspectives sur des éléments du monde, les émotions que vont ressentir les patients, etc. Donc, on essaie de changer les comportements in fine, mais on passe par d'autres techniques avant pour y arriver.
J'ai déjà pensé que ce que j'allais dire, tu vois, mais quand même, très difficile.
La métacognition, c'est les croyances que je vais avoir sur mes propres croyances, sur mes propres perceptions, sur mes propres émotions, en fait, sur mes propres états mentaux. La métacognition, en fait, elle est beaucoup étudiée aujourd'hui, mais pas encore assez, probablement. C'est une des choses principales qui fait qu'on n'arrive pas à bouger certains comportements, qu'on n'arrive pas à changer certaines croyances, et qu'on reste parfois bloqué, ancré dans des choses qui nous font du mal ou qui sont douloureuses pour nous. Une des choses qu'on peut faire, nous, c'est moduler aussi la métacognition, parce que les croyances qu'on a sur nos propres croyances, elles influencent énormément la flexibilité de ces croyances par rapport à la mise par rapport aux informations nouvelles qui nous viennent. Si je crois, par exemple, que c'est sûr que je vais toujours être rejeté, parce que je mérite vraiment d'être rejeté, parce que c'est évident que à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais mal, et que dans mes relations sociales, je suis toujours à côté, et bien à chaque fois que j'ai une relation sociale et que je vais faire quelque chose qui pourtant sera très bien dans la réalité, et bien je vais avoir cette métacognition qui va bloquer la perception des choses positives dans la relation. Donc finalement, je vais renforcer par un effet de retour de flamme ma croyance initiale à cause de la métacognition, qui modifie la perception que j'ai du monde. Ça, c'est un truc assez important. Et dans les systèmes bayésiens, c'est représenté par des croyances sur des croyances. Donc sous la forme de hiérarchie, finalement, où il y a des croyances de premier niveau, de deuxième niveau, de troisième niveau, de quatrième niveau, etc. etc. qui sont en fait une forme de précision des croyances du niveau inférieur.
Le côté des corps rouges, ce qui fait que ça se transformait en objet érotique, alors que tous les trapèzes, normalement, ont tous des petits velours rouges en bas des cordes, et au-dessus du lit, ça prenait tout de suite une nouvelle dimension. Et à ce moment-là, effectivement, j'avais beaucoup d'amour. Et quand il rentrait dans cette chambre, alors il y avait...
Il y a l'idée qu'on peut, en modulant, en modulant l'activité du cerveau, moduler des grandes fonctions cognitives qui vont être à l'origine, finalement, de la génération des états mentaux dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on n'agit pas directement sur les états mentaux, on n'agit pas sur les perceptions, on n'agit pas sur les émotions, on n'agit pas sur les croyances, mais on va modifier, finalement, les mécanismes qui permettent de générer ces produits finis. C'est l'idée de se dire aussi que les croyances, c'est un produit fini d'un ensemble de traitements de l'information. Et on peut modifier un petit peu ce traitement de l'information.
C'est mieux comme ça, n'est-ce pas ? Et le miracle se produit ! Oh, que c'est joli !